Bonjour, c'est Elisabeth Quin. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute.
En campagne électorale, Joe Biden évoquait le thème de la santé hier en Caroline du Nord lorsqu'il a été interrompu.
They have a point. We need to get a lot more care into Gaza.
La crise humanitaire dans la bande de Gaza est-elle en train de changer la relation spéciale qu'entretiennent les États-Unis et Israël depuis la création de l'État hébreu en 1948 ? Fournisseur d'armes, l'allié américain est aussi depuis des décennies un faiseur de paix au travers de plusieurs médiations au Proche-Orient. Mais aujourd'hui, la Maison-Blanche fait de moins en moins mystère de ses désaccords avec le gouvernement israélien. Pour preuve, lundi, lors d'un vote à l'ONU, les États-Unis se sont abstenus pour la première fois depuis le 7 octobre.
The draft resolution has been adopted.
Permettant l'adoption d'un texte qui appelle Israël à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Le gouvernement israélien se sent trahi. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a annulé, séance tenante, une visite d'une délégation israélienne prévue la semaine prochaine à Washington. Ses proches collaborateurs devaient y discuter de la prochaine offensive militaire sur la ville de Rafah, à laquelle les États-Unis s'opposent. Depuis le vote à l'ONU, Washington marche sur des œufs.
Il s'agit d'une résolution non contraignante, qui n'a donc aucune incidence sur Israël et sur sa capacité à poursuivre le Hamas. Elle ne représente en rien un changement dans notre politique. Les services de Benjamin Netanyahou cherchent à créer l'impression d'une divergence, alors que ce n'est pas nécessaire.
Alors, simple désaccord ou vrai divorce ? Sur fond de manifestations pro-palestiniennes dans plusieurs villes américaines, la campagne présidentielle pèse-t-elle sur les décisions de Joe Biden ? Et si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche, apporterait-il un soutien sans faille à Israël ?
Des réponses sans doute divergentes grâce à nos trois invités. Jean-Paul Chagnolo, bonsoir, président de l'Institut de recherche et d'études Méditerranée Moyen-Orient. Vous êtes professeur émérite des universités. Votre dernier livre, Atlas du Moyen-Orient, coécrit avec Pierre Blanc, est paru en 2023 aux éditions Autrement. Selon vous, Joe Biden est pris dans ses contradictions. Il n'a jamais voulu s'investir au Proche-Orient. Il est le seul président américain à n'avoir jamais proposé de plan de paix. Maintenant, selon vous, il est obligé de le faire, et ce, en pleine guerre. À côté de vous. Guil Mihaeli, bonsoir. Vous êtes bonsoir. Historien, directeur de publication des revues Causeur et Conflit. Selon vous, le spectacle de l'abstention américaine à l'ONU sert à démontrer le mécontentement de Joe Biden à l'égard de Benjamin Netanyahou, qui refuse obstinément d'approuver la formule cruciale de solution à deux États, solution politique. Et enfin, Amy Green, bonsoir madame, politologue, spécialiste de la politique américaine. Vous enseignez entre autres à Sciences Po Paris. Selon vous, la population américaine est de plus en plus divisée sur le Proche-Orient. Et une partie de la jeunesse, c'est une fracture générationnelle, hein, une partie de la jeunesse n'hésite plus à afficher un soutien pour la cause palestinienne qui était autrefois tabou. Et on démarre le débat avec le chiffre du jour.
Oui, 27-28, donc comme la résolution adoptée avant-hier par le Conseil de sécurité de l'ONU, elle exige un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération inconditionnelle des otages israéliens encore détenus par le Hamas, qui serait au nombre de 132. Pour la première fois depuis le début du conflit, les États-Unis se sont abstenus, ce qui a donc permis l'adoption de cette résolution. Jean-Paul Chagnolo, c'est un tournant, véritable tournant dans la politique américaine vis-à-vis d'Israël ?
Non, je ne pense pas que si on prend sur le temps long, ce n'est pas un tournant. On pourrait avoir beaucoup d'exemples qu'on a oubliés aujourd'hui. Mais par exemple, la dernière résolution importante qui voulait montrer un chemin de la paix, un chemin sur la base des deux États, c'était à la fin de l'administration Obama en décembre 2016. Et puis si on remontait encore, on pourrait se souvenir de Clinton, on pourrait se souvenir de George Bush père, où les États-Unis ont voulu aller plus loin dans la recherche d'une solution politique, et c'était à chaque fois des moments très forts. Donc là, on est, si on prend par contre le problème en termes de petites périodes, de séquences, par rapport à ce qui s'est passé depuis 7 octobre, c'est vrai que là, il y a une très claire inflexion. Donc, selon que l'on se situe dans l'histoire longue ou au contraire depuis 7 octobre, la réponse est différente. Mais c'est vrai que cette résolution est une nette inflexion, sous réserve aussi le fait que l'ambassadrice, par exemple, a dit qu'une résolution n'est pas contraignante. Donc on sent bien qu'ils ont franchi un pas, mais qu'il y a encore des contradictions que vous évoquiez tout à l'heure dans la présentation. Green, elles sont là, je trouve, ces contradictions.
Amy Green, pourquoi cette inflexion, justement ? Est-ce que c'est la pression des pays arabes alliés des États-Unis, comme l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, ou alors aussi les images de destruction et de faim à Gaza qui dégradent l'image des États-Unis dans l'ensemble du monde ? Qu'est-ce qui a joué le plus ?
Oui, en effet, c'est vrai que ce sont des facteurs qui jouent tous. Le président Biden exprime une vraie frustration profonde sur un certain nombre de sujets, c'est-à-dire les objectifs de la guerre, la gestion du fameux lendemain après la fin des conflits. Il y a la question également de l'aide humanitaire. Donc, c'est vrai que Joe Biden, de plus en plus, affirme une vraie contestation et une vraie demande de précision sur la stratégie et les objectifs d'Israël. Mais en effet, l'effet image n'est pas à sous-estimer. Parce que le peuple américain voit tous les soirs des images frappantes de la dégradation, de la destruction, de la violence. Et sans doute, c'est des images très incomplètes, on le sait, qui s'accompagnent d'entretiens des médecins qui vont à Gaza et qui reviennent, qui font des tas des lieux. Donc,
il y a effectivement. Des comptes rendus sur la famille, les victimes civiles, etc.
En effet, donc c'est catalyseur. En effet, vous avez évoqué en début d'émission des mouvements un peu tectoniques au sein de l'opinion publique américaine sur le sujet. On en reviendra peut-être. Mais en effet, la question de l'image, du récit, y contribue beaucoup.
Guy Michaeli, est-ce que vous parlez de divorce, vous, ou ça va trop loin ?
Ça va trop loin. Mais je suis d'accord avec mon voisin de gauche et ma voisine de droite. Il y a deux dimensions. Il y a la mise en scène. Parce que si on lit la
chez
décision...
Qui côté où ? Côté américain ?
Des deux côtés.
Des deux côtés.
Quand on lit la décision, c'est pour Israël, c'est presque un jackpot. Dans les discussions au Qatar, Israël aurait signé tout de suite, cessez le feu pour 15 jours, en échange des libérations inconditionnelles des otages. Donc c'est génial. C'est génial. Et donc, on n'est pas sur de contenu, on n'est pas sur de faits, on est sur une sorte de mise en scène. Biden est très mécontent de Netanyahou parce que Netanyahou n'a pas de relation de confiance avec lui, c'est très important. Deux, parce que pour les jours d'après, tout ce que les Américains voulaient, c'est que Netanyahou dit l'horizon politique... C'est une solution à 12
le
États.
Le jour d'après, c'est après la guerre, c'est ça. Quelle solution politique ?
Oui, c'est-à-dire vers où on va, solution à 12 États, quitte après à faire une heure et demie de conditionnel pour comprendre que ça n'arrivera jamais. Mm-hmm. Mais comme avec les mots magiques « cessez le feu », dès qu'on dit « cessez le feu », tout le monde est content, sans écouter « c'est juste pour 15 jours ». Et donc, juste pour terminer… Et c'est ça le fond de l'affaire.
Oui, mais
et c'était le fond de l'affaire quand il y a une crise avec Reagan en 82 au Liban.
Oui.
Et la même chose avec Baker et Bush en 91, avant.
Mais vous dites certes que Guy Michaeli que ça n'a pas un impact si fort sur Israël, mais tout de même, Israël se sent trahi, enfin visiblement, puisque Netanyahou a annulé une visite de la délégation qui devait se rendre aux États-Unis, Jean-Paul Chanoulot. Donc on sent quand même une divergence d'intérêts, un éloignement.
J'ai dit que c'est pas un divorce.
C'est pas un divorce, mais
avant le divorce, d'un couple, ça peut être assez compliqué.
Il y a un mécontentement fort d'Israël, Netanyahou, annulation de cette visite de la délégation israélienne.
Le mécontentement. Il est d'abord celui de Netanyahou, oui. Qui est complètement obsédé par son objectif, qui est en fait d'écraser la question palestinienne au sens large du terme, et faire tout pour qu'il n'y ait pas de solution politique derrière. Il le dit, il le répète. Et avec lui, il y a évidemment l'extrême droite, il y a Ben-Gvir, Smotrich, on connaît tous ces noms. Maintenant, même ceux qui ne s'intéressent pas au conflit. Et donc, c'est eux qui se sentent trahis, parce qu'ils ont vécu tous ces mois terribles, tragique à tous égards, comme une forme d'impunité. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire beaucoup de choses. Et quand je dis « ils ont pu », c'est aussi, par exemple, les colons qui ont pu faire ce qu'ils voulaient. Donc il y a une période où il y avait cette impunité et on revient un peu par cette résolution. On essaie de revenir au droit international. Le droit international, il exige un certain nombre de choses. Et on n'a pas dit un mot encore sur un autre aspect du droit international, mais quand même, qui est important, qui est la Cour internationale de justice. L'ordonnance du 26 janvier qui disait clairement qu'il fallait prendre un certain nombre de mesures importante en termes humanitaires et qui parlait d'un risque de génocide. Donc il y a tout ça qui joue forcément et on revient au droit. Et c'est ça
on se concentre sur vraiment la relation Israël-États-Unis. Et alors on va continuer à explorer avec vous, Anna, qui allez nous rappeler à quel point le soutien des États-Unis à Israël passe par la vente d'armes.
Oui, la vente et la livraison d'armes, puisque chaque année depuis 2016, les États-Unis fournissent l'équivalent de 3,8 milliards de dollars d'aide militaire à Israël. Israël. Alors 500 millions participent directement au financement du dôme de fer, hein, le fameux bouclier antimissile israélien, et puis le reste se répartit entre des avions de chasse, des hélicoptères, des bombes et des missiles. Et cet accord, en fait, il a été signé par les deux pays en 2016, et donc inutile de passer par la case du Congrès pour livrer ces armes à Israël. Et à ce budget annuel, eh bien, peuvent s'ajouter des rallonges ponctuelles qui, elles, doivent obligatoirement être validées par les parlementaires. Mais une enquête récente du Washington Post montre que le gouvernement américain a eu recours à une procédure d'urgence pour ne pas passer par le Congrès. Et cela concerne deux ventes d'armes vers Israël, la première pour des obus de chars, la deuxième pour des composants nécessaires à la fabrication d'obus, le tout pour des centaines de millions de dollars. Mais plus surprenant, on apprend aussi que depuis le 7 octobre, une centaine de livraisons d'armes ont été effectuées, là en toute discrétion. Le montant total de ces opérations a en fait été saucissonné en tout petit montant, de telle sorte que chaque livraison reste en dessous du seuil qui impose d'en débattre au Congrès. Alors évidemment, tout cela inquiète particulièrement de plus en plus d'élus américains qui condamnent les tactiques militaires à Gaza. Amy Green, est-ce que le pire scénario pour Israël, ce serait que les États-Unis arrêtent de livrer des armes? Et est-ce que c'est possible?
Alors là, je rejoins la question du divorce, parce que c'est important de se dire, en fait, l'intérêt des États-Unis, l'intérêt national n'a pas changé, c'est-à-dire que le soutien à Israël n'est pas remis en question. Mm-hmm. La question, c'est la divergence avec la ligne de Netanyahou. Et donc, l'administration Biden se trouve dans plusieurs impasses, plusieurs contraintes, en tout cas un jeu de contraintes. D'un côté, c'est soutenir Israël et venir tout à fait en solidarité avec cet allié de longue date, mais en même temps, prendre ses distances vis-à-vis de Netanyahou, que les États-Unis ne constatent plus que ce sera quelqu'un qui peut sortir de l'impasse et réfléchir à une solution pérenne.
Donc, ils ne vont pas arrêter de livrer des armes.
Mais en effet, il y a cette autre contrainte, c'est-à-dire que les États-Unis à la fois appellent à une solution, à davantage d'aide humanitaire, mais en même temps, c'est eux qui fournissent les bombes. Mm-hmm. Mais de la même manière, où le jeu de contraintes pour Netanyahou, entre autres, c'est d'avoir besoin du soutien diplomatique et militaire des États-Unis, mais en même temps, il ne peut pas trahir non plus les membres de la coalition qui le maintiennent au pouvoir. Donc, en effet, dans cette situation-là, on est face à plusieurs impasses, plusieurs jeux de contraintes, avec des équilibres extrêmement délicats à maintenir, en fait.
Parce que, Guy Michaeli, il faut rappeler que quand même, Israël est utile aussi aux États-Unis, notamment en termes de renseignement et d'industrie de défense. Il y a des échanges réciproques, des intérêts réciproques militaires.
Oui, mais ce n'est pas que ça. Ce qui fonde les relations entre Israël et les États-Unis, c'est une forme de sionisme chrétien. C'est quelque chose qui a commencé au Royaume-Uni au début du XIXe siècle, qui va jusqu'à la fin des années 1910 avec la déclaration Balfour et tous les gens autour de Lord Balfour.
Lord Balfour.
Et 1922 aussi. Et à un moment donné, les Amériques, cette forme de christianisme, qui est d'ailleurs responsable aussi pour la lutte contre l'esclavage, c'est les mêmes qui voient que la réinstallation des Juifs en Palestine, c'est le début d'un processus qui va finir avec l'arrivée de Messie. Et c'était eux qui étaient contre l'esclavage.
Donc,
c'est
des choses.
Voilà, évangélistes, aujourd'hui aussi c'est des pentecôtistes. Ça pèse beaucoup.
Quand on
demandait à Lyndon Johnson s'il a lu un livre de sa vie, il a dit oui, j'ai lu la Bible.
Lyndon Johnson, l'ancien président. Revenons à la coopération très imbriquée, très étroite entre Israël et les États-Unis aujourd'hui au niveau du renseignement, de la lutte contre le terrorisme. Elle est réelle, elle est fondée.
Elle est réelle et les aides des États-Unis à Israël sont. On commençait il y a très longtemps, après la guerre de 1973. Les accords de paix entre l'Égypte et Israël ont un composant américain avec de l'aide militaire. Et à un moment donné, il y avait aussi une aide civile qui est arrêtée pour l'Égypte et pour Israël. Donc on peut comprendre, par exemple, si on regarde juste l'Égypte. L'Égypte, c'est une bombe atomique à retardement. 110 millions, ils ne savent même pas combien ils sont, crise économique, etc. Et donc, le fait qu'il y ait un paix entre Israël et l'Égypte, c'est un intérêt planétaire. D'accord. Et le fait que les deux pays sont rassurés, ont de bonnes conditions, c'est l'intérêt de tout le monde. Et ça fait partie des considérations de Biden, par exemple.
D'accord. Alors, je vous propose de vous soumettre à tous une archive qui date qui a 20 ans, où on voit que l'histoire bégaye au Proche-Orient, et bégaye tristement. C'était donc en 2004, un bombardement israélien sur Gaza provoque des pertes civiles considérables, et les États-Unis décident exceptionnellement de s'abstenir à l'ONU, vous en souvenez, pour marquer leur désapprobation.
14 voix pour et une seule abstention. celle des États-Unis. Contrairement à son habitude, Washington n'a pas mis son veto à une résolution condamnant fermement les opérations israéliennes à Gaza. Et le ton monte à la Maison-Blanche. George Bush attend des explications d'Ariel Sharon.
Je continue d'appeler à la retenue. Il est essentiel pour qu'on arrive à la paix, que les gens respectent la vie de civils innocents. Et nous aurons des clarifications du gouvernement. J'attends d'en parler avec le gouvernement israélien.
Donc Jean-Paul Chagnol, il y a eu cette abstention. Là aussi, on le voit que ça a eu un effet avec cette résolution. Quelles conséquences concrètes elle peut avoir sur le terrain à Gaza, ce changement dans l'attitude américaine? Est-ce que militairement, ça peut avoir un impact? On n'a pas l'impression. Netanyahou veut continuer son offensive, d'après ce qu'il vient de dire. Ou alors, est-ce que c'est aussi pour influencer l'opinion publique israélienne contre Netanyahou, qui a un soutien très faible déjà vis-à-vis de son Premier ministre?
D'abord, je voudrais rappeler que ce n'est pas la première fois que les États-Unis prennent une position de ce genre. J'en ai cité une.
On vient d'en voir une autre, là.
Quand Israël annexe Jérusalem-Est, il y a aussitôt une résolution qui est prise. Donc on en a un certain nombre. Mmh. Il faut jamais oublier ça. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans cette contradiction que j'évoque depuis le début et sur laquelle nous sommes assez d'accord. C'est-à-dire qu'il y a ce texte, en même temps, il n'y a pas les moyens pour le faire appliquer. Qu'est-ce que ça voudrait dire, les moyens? Ça serait, par exemple, suspendre ces livraisons d'armes. Et quand on dit livraison d'armes, il y a aussi des arsenaux que les Américains ont installés en Israël et dans lesquels ils peuvent puiser, les Israéliens peuvent puiser. Oui, c'est ça, prépositionner. Et donc, ils ont des moyens concrets.
Sauf que les États-Unis estiment cette guerre légitime tout de même.
Comment ?
Les États-Unis estiment cette guerre légitime depuis le 7 octobre.
Oui, mais il y a... Alors, une guerre est légitime jusqu'à un certain point. Mmh. Et ce point, il a été largement dépassé parce qu'on est au-delà du droit international à tous égards. Droit international au sens général et au sens humanitaire du terme. Je crois qu'il faut arrêter les choses aujourd'hui. C'est bien là ce que disent les États-Unis. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça...
une offensive sur Rafah, notamment, où il y a un million de réfugiés Gaza. Bien sûr, mais
là aussi, ça a beaucoup évolué, la position américaine. Ils ont d'abord dit qu'il faudrait que ça se passe dans de conditions avec l'évacuation des civils. Et puis finalement, là, ils ont dit carrément qu'il ne faut pas d'offensive sur Rafah. Et évidemment, cette résolution, elle interdit. En principe, d'un point de vue juridique. Mais la vraie question, c'est qu'une fois qu'on a dit une position de ce type, il faut mettre en œuvre des moyens et par conséquent faire pression. Quand on parlait de George Bush, le père, il avait mis en œuvre des moyens qui étaient, par exemple, ne pas accepter un prêt, de soutenir un prêt dont Israël avait besoin à l'époque. Donc s'il n'y a pas de moyens mis en œuvre, on reste dans ce flou. J'ajoute aussi que Biden est coincé par le Parti démocrate lui-même. Oui. Il y a eu une intéressante position de Chuck Schumer il y a quelques jours, qui est le leader de la majorité, en un mot. Il a dit ça. Il a dit...
Non, démocrate.
Démocrate, oui,
bien sûr. C'est ça aussi, là.
Et il est leader du Sénat, puisque c'est une majorité démocrate.
Oui, Chuck Schumer.
Chuck Schumer, et il a dit très clairement que Netanyahou était un obstacle à la paix et qu'il avait perdu son chemin. Il avait « lost his way ». C'est quand même très intéressant. Et il n'a pas dit ça dans une formule comme ça au cours d'une interview, mais il a dit ça en lisant un texte au Sénat. Donc c'est très précis, et c'était il y a 15 jours. Donc c'est un marque très concret de dire « il faut arrêter », et il a appelé des nouvelles élections. Donc on voit bien que le Biden hésite à aller plus loin, et sans oublier un dernier mot, c'est qu'il a quelques mois pour agir. Car il y a les élections derrière, et ça, c'est la grande question. S'il avait devant lui 18 mois, les choses seraient sans doute différentes.
Donc il a vraiment été au cœur d'une contradiction très difficile à assumer. C'est devenu un enjeu de politique intérieure majeur, Israël.
Bien sûr.
Oui, en fait, la grande nouvelle de l'élection de 2024, c'est que la politique étrangère fait partie intégrante des préoccupations principales des Américains, qui est très rarement le cas. Si les États-Unis sont activement engagés en guerre, oui, en général, on peut estimer qu'il y a tout à fait un enjeu très présent, mais en tout cas, entre l'intervention en Ukraine, la guerre à Gaza, c'est vrai que le peuple américain commence à se poser des questions. Et tout ça sur un fond, un petit bruit, une petite musique, qui est la faiblesse supposée de Joe Biden. Sur tout un tas de sujets, et puis là, on ne va pas sortir du champ de sujet de ce soir, mais c'est vrai qu'il est perçu, il est pensé comme faible par le public américain sur tout un tas de sujets.
Et vous évoquiez, j'évoquais, quand je vous présentais, ce que vous disiez sur la fracture générationnelle.
Oui, tout à
aussi,
fait.
Qui est quelque chose d'inattendu et d'inédit, en tout
c'est
cas.
Exactement.
Pas inattendu, mais inédit.
Absolument. Vous avez raison. En effet, donc, Joe Biden, il souffre de cette perception de faiblesse, donc il a cette injonction d'une certaine manière de répondre de manière forte et de tenir des positions fortes, mais en même temps, il subit une pression considérable de la part d'une fronde au sein de son propre parti, qui monte une sorte de vote blanc au sein des élections primaires pour que les personnes qui savent de toute façon que Joe Biden va
investi de son parti, ça y est, il a eu les délégués, mais en tout cas qui vote néanmoins sans préférence ou uncommitted, c'est-à-dire que sans engagement, ce qui pourrait nuire, parce qu'en fait ça envoie le message que voilà, on est là, il faut nous écouter, on peut faire pression sur le jeu politique. Donc en effet, Joe Biden, qui est le plus âgé des présidents des États-Unis, avec un parti démocrate de plus en plus à gauche sur ce sujet-là, en tout cas, de plus en plus jeune, il a besoin des jeunes. Pas d'accord avec la politique américaine sur ce sujet-là. Donc il faut à la fois être fort comme président des États-Unis, mais ne pas perdre sa base.
Écouter sa base.
Voilà. Oui, alors quelles conséquences d'une éventuelle réélection de Donald Trump en novembre prochain? Tout le monde se pose la question. On va écouter d'abord l'ancien président américain dans un entretien accordé au journal Israel Hayom.
You have to finish up your war. You have to finish it up. You got to get it done. Israel has to be very careful because you're losing a lot of the world. You're losing a lot of support. But you have to finish up, you have to get the job done, and you have to get on to peace. You have to get on to a normal life for Israel and for everybody else.
Vous devez en finir, vous devez faire le travail. Guy Mikhaïli, qu'est-ce que ça veut dire dans le jargon trumpiste?
C'est que ça veut dire que si Netanyahu compte sur un changement d'administration en janvier, après novembre, si jamais il gagne les élections, il peut être déçu. Parce que la petite musique derrière, quand il dit la paix, on sait ce que ça veut dire. C'est-à-dire, quel est votre projet des jours d'après? Parce que, en fait, Biden est d'accord avec Netanyahu qu'il faut écraser le Hamas. Il aurait pu aussi supporter une certaine souffrance de la population. Si jamais, derrière, il y a un horizon politique, les Américains auraient pu être beaucoup plus souples sur la voie qu'il amène. Mais puisqu'il croit que Netanyahu les amène vers le mur, tout devient autrement plus compliqué. C'est ça le fond de l'affaire, vers où on va. Et quand il dit il faut que vous finissiez cette guerre et il faut la paix, c'est presque comme s'il a dit je suis sur la même position que Biden.
C'est ça. Jean-Paul Chagnolot, en même temps, Netanyahu n'est clairement pas consensuel en Israël, mais sur la poursuite de la guerre à Gaza, il y a quand même un consensus encore en Israël.
Il y a une majorité pour la guerre et il y a une majorité contre Netanyahou. C'est ça à peu près la situation.
C'est l'ambivalence.
Mais pour revenir sur Trump, je pense que quand on dit la paix, ça ne veut rien dire. Parce que quelle paix?
C'est ça.
Et la paix de Trump, c'était la paix de sa proposition en janvier 2020. C'était tout de suite pour les Israéliens, rien, et peut-être quelque chose plus tard pour les Palestiniens. Donc c'était une paix complètement déséquilibrée. Alors que Biden, qui a finalement réussi à revenir sur le plan d'une gestion globale, et pas simplement une gestion de crise, il parle du droit international et des deux États. Donc on est sur deux postures différentes, et derrière, si ce sont les Républicains qui sont au pouvoir, moi je crois que les choses seront très différentes.
Très différentes, c'est-à-dire, parce que Trump avait déménagé quand même l'ambassade américaine à Jérusalem, ça avait fait beaucoup parler, reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan, et surtout favorisé les accords d'Abraham, on s'en souvient. Et du coup, vous pensez qu'il peut évoluer Trump tout de même ou pas? Ou qu'il va rester sur cette ligne-là, plus aligné du coup sur Israël?
Oui, c'est toute la question en fait, c'est complètement imprévisible. Il n'y a pas de raison de croire qu'il va diverger d'une politique qu'il a déjà menée. Et en effet, lors de ce même entretien, il s'est vanté de son bilan de soutien envers Israël. Mais si on sait quelque chose de Trump, c'est que tout est possible.
Il est pour deux États ou pas, Trump? On n'y voit plus très clair. Biden l'est, mais Trump...
La solution à deux États.
Il est pour deux États, mais un État palestinien qui n'existerait pas. Enfin, quelque chose de ce genre. Je fais ça en une phrase. C'est-à-dire que oui, il est sur cette idée-là, mais tout, quand je disais tout pour Israël, et puis quelque chose comme quelques territoires autonomes pour les Palestiniens. C'est ça le plan de 2020.
Mais de toute façon, on est sur des formules. Il faut dire certains mots.
On reprendra ce thème, évidemment, inévitablement. Merci en tous les cas d'être venu débattre et d'avoir exploré notre question du jour.
Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous, commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.